au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Jean-Denis Brodeur, vous êtes avocat au civil, une qualité que vous n'abandonnerez probablement jamais, ayant le sens de la défense chevillée au corps. En 2006, par exemple, vous avez œuvré pour la réhabilitation de la mémoire de Sesnec. Vous avez été, pour des générations d'étudiants, professeur de droit à l'université de Paris 1, Sorbonne, où vous avez effectué l'essentiel de votre carrière universitaire, et en cette qualité, vous avez écrit des livres de droit, des articles juridiques, sans oublier des livres sur votre métier d'avocat, mais vous êtes aussi un auteur de romans, de nouvelles, de biographies, et vous avez à votre actif une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels l'affaire, parmi lesquels le plus célèbre d'entre eux, si je puis dire, l'affaire, portant sur l'affaire Dreyfus, qui a connu plusieurs éditions. Vous avez entrepris d'écrire des biographies, de faire le portrait de quelques grands personnages de notre histoire, Seyès, Charlotte Corday, Joseph Caillaux, Bernard Lazare. L'écriture fut aussi pour vous le moyen de témoigner de votre engagement politique, il y a longtemps, avec l'ouvrage « Les Français au pouvoir » en 1977. Vous étiez alors le vice-président du mouvement des radicaux de gauche, et vous avez été sollicité pour de nombreux rapports par les différents gouvernements. Jean-Denis Brodeur, vous avez été élu à l'Académie française en 1989 au fauteuil de Marguerite Yourcenar, et vous nous avez offert aussi des ouvrages beaucoup plus littéraires, plus intimistes, parmi lesquels « Lettre à Dieu le Fils »,« Un enfant sage »,« Trop bien élevé », et un récit que vous avez récemment publié en 2007 chez Grasset. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, puisque vous avez accepté de venir nous en parler au micro de Canal Académie. Alors, Trop bien élevé est un récit d'enfance. La vôtre, un bref récit au style concis, sobre, c'est une écriture pudique, tout en élégance, et qui raconte à la fois le poids du carcan de l'éducation que vous avez reçu, et puis l'éveil au monde d'un petit garçon de 10 ans qui a justement 10 ans à la veille de la Première Guerre mondiale. Jean-Denis Brodeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né en 1929 et...
Hélas, oui.
Dans Trop bien élevé, vous revenez sur votre enfance, un thème que vous avez rencontré, dites-vous, déjà abordé dans quelques-uns de vos livres. Qu'est-ce qui a motivé cette fois-ci le choix de parler de vous, de votre enfance? Quelle tempête intérieure est à l'origine de ce livre?
Je ne crois pas que ce soit le résultat d'une tempête intérieure. Peut-être l'âge a-t-il joué son rôle, puisque comme vous l'avez dit, je suis né en 1929, il y a maintenant fort longtemps, et par conséquent, si l'on veut raconter des souvenirs d'enfance, il faut ne pas attendre que l'on soit mort. Et par surcroît, c'est vrai que j'ai toujours été tenté de parler de ce sujet, tant les souvenirs d'enfance ont été dans ma vie importants, et tant je crois que j'ai été prisonnier d'eux, alors pour le bien et pour le mal probablement, mais enfin quand même très prisonnier d'eux. Alors je m'y suis mis, voilà, et puis dès que l'on se met à quelque chose, on essaye de le finir. Je n'ai pas fini le récit puisque je n'évoque que 14 années de mon enfance, depuis la naissance en 1929 jusqu'à l'année 1943 où j'abandonne ce récit.
Vous avez l'intention d'écrire la suite ?
Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que mon souci est de ne faire nulle peine à personne. Et j'ai donc voulu surtout parler de gens qui ont disparu ou avec lesquels je suis très complice. Après, tout devient forcément un peu plus compliqué.
Oui, vous avez une très jolie formule au début de l'ouvrage. De chaque ligne écrite, je vois tomber comme une goutte d'acide quand vous parler justement. Comment écrire sur un sentiment vivant sans risquer de le figer ou de le transformer ?
Alors, je crois qu'on peut écrire sur son enfance. C'est plus difficile d'écrire sur sa vie telle qu'elle est, et même sur des âges moyens. Je me souviens que quand j'ai été reçu à l'Académie française, fut par Pierre Moineau, qui était un personnage merveilleux, un ami. Et il m'a reçu le jour de mon anniversaire. Et il a provoqué un certain étonnement en chantant. Pour la première fois, on chantait à l'Académie française, et Pierre Moineau a chanté « Joyeux anniversaire ». Alors, il avait évoqué mon enfance, mon anniversaire, et peut-être m'a-t-il encouragé sur cette voie, je ne sais.
Revenons au livre « Trop bien élevé ». Quel était le titre original ? Était-ce celui-ci que vous aviez choisi alors, au début ?
Non, j'avais choisi pour titre « Excusez-moi ». Pour évoquer un aspect de cette éducation, d'une éducation d'ailleurs qui a été très fréquente, il faut le dire, et dans lequel on vous apprenait à vous excuser tout le temps. Et on m'a tellement appris à m'excuser tout le temps que je crains que ça ne me soit resté. Et je vais probablement m'excuser auprès de vous 3 ou 4 fois pendant la durée de notre entretien. Alors j'avais pris « Excusez-moi » et Olivier Nora, qui dirige la maison Grasset, m'a dit « c'est pas forcément un très bon titre parce que d'abord le moi est peut-être un peu de trop dans un titre et puis excusez-moi ça ne dit rien de précis, ça ne définit pas grand chose. Alors je me suis dit qu'il valait mieux prendre le titre Trop bien élevé. C'est pas le seul livre sur l'éducation, il y a eu beaucoup de bons livres sur l'éducation. Je pense notamment au livre de Fritz Horn, Mars. Vous avez probablement lu, dans lequel il expliquait qu'il avait été éduqué à mort sur les bords du lac de Zurich, éduqué à mort et mort de son éducation. Donc, trop bien élevé, je me suis dit, c'est un titre qui dit plus la réalité de ce que je veux dire, à savoir qu'on a trop bien élevé.
Alors, c'est justement le poids de cette éducation. Quels étaient les codes en vigueur dans ce milieu, dans votre milieu, en matière d'éducation dans les années 30 ?
Eh bien,
qu'est-ce qu'on attendait de vous lorsqu'on était un enfant ?
Les hasards de la vie font que je suis presque tout de suite l'enfant de parents divorcés, élevé par mon père et allant chez ma mère le jeudi après-midi dans le cadre du droit de visite.
C'est la particularité de votre histoire familiale.
C'est une particularité, hélas, que beaucoup
ont
rencontré. Mais à l'époque, et en tout cas dans ces familles-là, le divorce était un drame absolu, il n'était pas question que je parle à mon père de ma mère, ni à ma mère de mon père, il n'aurait même pas supporté que je prononce le mot. Mon père, je me souviens, par précaution, quand j'allais chez ma mère, demandait à ma gouvernante de me mettre un thermomètre dans le derrière, afin de me prendre ma température, que l'on prenait ensuite quand je rentrais de chez ma mère pour voir si je n'avais pas contracté une fièvre, une maladie quelconque, enfin tout ce qu'on pouvait contracter dans une autre famille que la sienne. Voilà, alors c'était deux familles différentes, deux bourgeoisies aussi, j'allais presque dire aussi, empêtrées dans leur manière, dans leur savoir, dans leur... mais différentes. Mon père, c'était une bourgeoisie... juive alsacienne très rigide, qui est très morale, dans lequel le travail était la seule vertu, le travail et le devoir, les bonnes manières. Et chez ma mère, il n'y avait plus de rapport avec la culture, le besoin d'apprendre. On évoquait Marcel Proust qui avait été un ami de ma grand-mère. On parlait de différents compositeurs de musique, on faisait du piano. Bref, c'était une famille un peu différente. Mais toutes ces deux sortes de familles bourgeoises, et j'ai voulu décrire deux types de familles bourgeoises, avaient en commun d'enseigner les bonnes manières, ce qu'elles croyaient être les bonnes manières.
Alors, quelles étaient-elles ces bonnes manières ? Parce qu'on vous apprenait à cacher vos émotions d'abord. À ne pas les montrer. D'abord, c'était un univers très froid, très lisse.
C'était un univers très froid, vous avez tout à fait raison. Et j'en ai parlé avec un certain nombre de mes amis qui ont été élevés à même époque dans des familles très différentes, mais qui ont retrouvé ce type d'éducation. Quel type d'éducation ? Premièrement, un enfant était là pour ne pas déranger.
Oui, ça
voulait
le dire.
Un enfant
très, très
était
bien.
Là pour être parfaitement bien élevé, c'est-à-dire épouser toutes les bonnes manières, bien se tenir à table, sourire de préférence, ne pas parler si on ne lui donnait pas la parole. Bien travailler, beaucoup travailler, faire de bonnes études et être une sorte d'enfant parfait qui
modèle.
Donne aux parents toutes les satisfactions qui sont, vous avez raison, le mot modèle, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur avaient quelque chose de ça. Il fallait être un enfant modèle.
Quelle place accordait-on donc, on accordait, pardon, peu de place à l'émotion. La distance de votre mère et à travers elle, tout le rôle assigné aux mères de cette époque que vous décrivez dans le livre, c'est une distance aussi qu'on peut retrouver dans d'autres milieux ou c'est particulier à votre histoire familiale ?
Non, je crois que ça a été fréquent. Alors, plus fréquent, c'est vrai, dans les familles divorcées, que dans les familles de parents divorcés, peut-être que dans les autres. Mais il fallait accomplir tous les rituels, plaire, et c'était le père qui avait vocation, non pas à dire les choses, mais à surveiller le travail, la droiture, le silence. Je me souviens, par exemple, pour donner des exemples de ce qu'était l'éducation, quand j'ai raconté ça à mes enfants, puis à mes petits-enfants, ça les a fait rire. Je me souviens, par exemple, qu'il n'était pas question de dire que l'on aimait un plat. Si on disait que l'on aimait un plat, on vous le retirait aussitôt. Il ne fallait pas l'aimer, et en revanche, si on disait « je n'aime pas ceci », il fallait immédiatement t'en reprendre. D'ailleurs, c'était grossier de dire ça, et il fallait immédiatement t'en reprendre. Bref, les bonnes manières étaient de se soumettre rigoureusement à tous les rituels d'une classe sociale, il faut le dire, qui ressemblait plus au XIXe siècle qu'elle ne ressemble au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis, il fallait... Le travail était tout au-dessus, tout le sport était mal vu, plutôt mal vu, il ne fallait pas abuser de ça, un peu de tennis peut-être, mais enfin le sport n'était pas encore bien vu. La musique était bien reçue, il fallait prendre des leçons de piano, beaucoup de leçons de piano pour devenir non pas un musicien, mais un correct, je n'ose même pas dire pianiste. Mais enfin,
un mélomane.
Et de toute manière, il fallait bien travailler, bien se conduire et s'excuser, alors je reviens sur le mot s'excuser très souvent de cette maltenue, de ne pas être habillé, de ne pas savoir croiser le costume comme il convenait, et peut-être d'avoir eu une mine, je n'ose pas dire insolente, parce qu'une mine insolente, ça aurait été trop, mais enfin d'avoir eu une mine qui ne plaisait pas.
Alors, vous dites aussi quand même un peu la douleur de cette éducation, du poids de cette éducation, parce que vous dites que les adultes fabriquaient des enfants solitaires, des enfants tristes.
Alors, on fabriquait des enfants solitaires, on fabriquait des enfants tristes. D'ailleurs, la joie n'était pas dans le panier, j'allais dire, de l'éducation, ni la joie, ni le bonheur. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré ça dans le panier éducatif. Il y avait... travail, il y avait le sérieux, il y avait la tenue. Enfant triste, oui, il était plutôt mieux d'être un tout petit peu triste, pas trop quand même, il ne fallait pas pleurer. Pleurer, ça, c'était un peu indécent.
C'était une faiblesse.
Mais il fallait, et puis il fallait surtout beaucoup et bien travailler, ramener les premières places. Alors on m'avait mis dans un cours où ont été d'ailleurs beaucoup de mes amis à l'Académie. J'en ai retrouvé quelques-uns qui s'appelaient le cours Atmer, où on allait une fois par semaine, cours qui avait imaginé que les parents venaient s'asseoir derrière les enfants.
Ah ça, vous ne le racontez pas dans le livre.
Pendant la durée du cours, les parents venaient s'asseoir, les gouvernantes venaient s'asseoir durant et ensuite on était classés, premier, deuxième, troisième, quatrième, et à la sortie on recevait des gifles si on avait été mal classé, quelques félicitations si on avait été bien placé, mais cette épreuve, j'allais dire en présence des parents, apparaissait comme quelque chose de très salutaire. On n'imagine plus ça aujourd'hui.
Et votre mère vous demande de chaque année, d'ailleurs, d'être le premier de la classe.
Ah ben, on nous demande d'être le premier de la classe. Je me souviens que mon père, qui est mort quand j'avais 10 ans, mon père, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, me donnait quelques sous, je ne sais plus combien, si j'étais premier, mais me les reprenait si j'étais second. De la même manière, tous les jouets que l'on pouvait me donner étaient mis dans un grand placard. Tu joueras plus tard. Pour le moment, il faut que tu travailles. Je n'ai jamais vu tout ça. Bien sûr.
Vous vous êtes rattrapé depuis, de toute façon.
On s'est rattrapé un peu. Enfin, c'était un modèle d'éducation dont, c'est vrai, quand j'en parle avec des jeunes aujourd'hui...
Qui paraît incompréhensible.
Qui paraît entièrement, non seulement démodé, mais inimaginable presque pour certains.
L'enfance, c'est un monde intérieur quand même. L'écriture, ça a été une façon de vous réfugier pendant cette période. La lecture, vous écrivez des poèmes, vous écrivez même des poèmes. Vous essayez à l'écriture théâtrale par l'intermédiaire d'un ami dont on va sûrement parler, parce qu'il y a deux choses dans ce livre. Il y a à la fois le témoignage d'une époque, de cette éducation, et puis il y a aussi tout se passe en 39, enfin de 29 à 39, et puis ensuite vous avez élaboré les chapitres vraiment autour d'une chronologie très très rigoureuse, mais des dates que nous connaissons tous, hein, 29, 39, mai août 39, 40, 41, 42. Donc, on voit au fur et à mesure de la lecture, tout ce que voit un petit enfant, un jeune garçon de 10 ans, dans la France de Vichy. Et vous êtes témoin de la disparition de vos amis. De façon brutale. Alors, comment vous avez choisi d'aborder ce thème et pourquoi c'est très connu. Vous êtes un grand défenseur des droits de l'homme. Donc là, cet antisémitisme d'État vu à travers vos yeux d'enfant, vous avez voulu en rendre compte de façon très pudique,
c'est-à-dire que
à travers l'amitié, une amitié justement qui vous a été volée.
Mais alors, il y a là deux périodes que j'ai voulu tracer. La première, 29 à 39, c'est la bourgeoisie, le règne d'une certaine bourgeoisie. C'était vrai aussi, c'est l'époque du Front populaire. Je me souviens que comme mes parents connaissaient pas mal de gens, j'avais eu l'honneur d'être invité à l'hôtel Matignon par M. Léon Blum, président du Conseil. Je devais avoir... 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être, comme beaucoup d'enfants, il avait donné un goûter d'enfant, et je me souviens qu'il m'avait pris dans ses bras et m'avait dit « tu seras un jour président du conseil ». Alors j'étais un peu triste parce qu'il l'a dit tout de suite après à celui qui suivait, et puis à celui qui suivait d'enfant. J'ai compris que c'était sa manière très gentille d'ailleurs de recevoir les enfants qui venaient à lui. Alors je dis ça pour dire que ça c'est une période relativement tranquille, et en mai 1939, en 3 jours, mon père meurt. Je me suis permis de dire qu'il faisait toujours les choses ainsi, en grande discrétion, mourir en quelques jours, ne n'importuner personne, ça avait été le choix de sa vie. Et puis alors est venu, heureusement il est mort avant que le gouvernement de Vichy s'installe, est venu le gouvernement de Vichy, est venu en 1940 l'antisémitisme. Et à ce moment-là, je suis retourné vivre avec ma mère qui habitait dans le Marais. Qui habitait dans le Marais parce que ma grand-mère avait acheté un vieil hôtel particulier dans le Marais qui s'appelait l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, où elle avait vécu Beaumarchais. Et elle le restaurait avec soin. Alors je me suis donc installé auprès de ma maman avec mes deux sœurs dans le Marais, et à ce moment-là on m'a mis au lycée Charlemagne, et au lycée Charlemagne qui était le lycée au plein milieu, au plein cœur du Marais, et où j'ai assisté à des drames quotidiens. Je veux dire que plus de la moitié des enfants étaient juifs au lycée, et un un certain nombre disparaissaient. Alors, quand le professeur faisait l'appel le matin, il est vrai que assez souvent, il prononçait un nom une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'écolier, je devrais dire le lycéen, ne répondait pas. Il n'était plus là. Mmh. Était-il parti? Avait-il été emporté dans la nuit? Nous ne savions pas et nous avons pris l'habitude de vivre ainsi avec des camarades qui disparaissaient dans une atmosphère de, à la fois de grande solidarité, mais de souffrance, c'est vrai.
Vous en parliez entre vous
Nous en parlions peu. Nous les aidions, nous étions tous gentils entre nous. La moitié de mes camarades portaient l'étoile juive. Mmh. Certains, encore une fois, s'en allaient. Les plus brillants, je les ai vus disparaître, et j'évoque, puisque vous évoquiez ce problème, celui qui m'avait dit « je vais te donner des leçons de français ».
Oui, puisque comme vous aimiez écrire,
camarade Feldman, qui m'avait dit « je vais
premier...
te donner des leçons de français », parce qu'il était toujours le premier en français, ça devait nous exaspérer tous un petit peu.
Vous le trouviez très doué.
« Il faudrait que tu fasses des progrès », me disait-il. Ma mère me disait qu'il fallait absolument que je fasse des efforts en progrès. En français, car, et ça c'est aussi un signe d'une autre époque, le fait que je ramène le premier prix de mathématiques n'intéressait pas. Aujourd'hui, un fils qui rentre avec un premier prix de mathématiques, cela paraît raisonnable et bien et encourageant. À l'époque où le mathématique, le professeur d'anglais, je me souviens qu'il était charmant, nous disait « moi je vous apprendrai surtout pas l'anglais, car je ne le parle pas, je vais vous apprendre la philosophie anglaise, la littérature anglaise, l'histoire de l'Angleterre, mais je ne vous apprendrai pas l'anglais. En revanche, tout était sur le français, les lettres. Et j'ai eu d'admirables professeurs au lycée qui nous obligeaient à écrire. Je pense notamment à Marcel Schneider, qui a beaucoup écrit ensuite et qui nous obligeait à écrire. Il disait « les auteurs qui sont au programme, ça m'a fait faire ». Ce sont souvent des auteurs médiocres, il avait raison d'ailleurs. En revanche, il faut lire Rimbaud, il faut lire Verlaine, il faut lire Baudelaire, et puis il faut m'amener des poèmes. Et alors,
un certain nombre
de nos professeurs nous obligeaient à écrire et à revenir avec des poèmes que nous avions écrits, très mauvais, bien sûr, très mauvais. Mais ces poèmes nous formaient à l'écriture, et nous étions ainsi profondément enseignés, je crois. Enseigner à cette idée qu'on ne pouvait pas vivre sans écrire, ce qui aujourd'hui aussi peut apparaître original.
Ok. Et donc, ce jeune camarade vous guide dans votre apprentissage de l'écriture, il vous donne des conseils, il vous dit d'abandonner la poésie, et puis ça dure trois mois seulement, mais vous lui rendez hommage dans ce livre.
Ah oui, en même temps, je crois que c'est sur cet hommage que j'achève le livre. C'était un camarade surdoué. Je me souviens qu'on se promenait sur les quais de la Seine. Je lui avais dit bêtement « Est-ce que tu as vu la mer ?» Il m'a dit « La mer, je ne l'ai jamais vue et sans doute je ne la verrai jamais. » Et il me donnait des leçons et il m'a obligé à écrire des tragédies. Très mauvaises, il me l'a dit d'ailleurs, il avait raison, elles étaient très mauvaises. Mais écrire des tragédies, parce qu'il m'a dit « tu écris trop de poèmes et il ne faut pas t'embarrasser éternellement par les poèmes, donc écris des tragédies ». Alors il me corrigeait mes tragédies, bref, il était devenu mon prof de français avec beaucoup de gentillesse. Et je me souviendrai que le dernier jour où je l'ai vu, c'était en 43 si j'ai bonne mémoire, et où il m'avait corrigé une tragédie qu'il avait trouvée franchement mauvaise, que j'avais écrite sur les amours de Bérénice. Il m'a dit « Écoute, tu fais quand même quelques progrès, et puis on se reverra. » En fait, on ne s'est jamais revu, car dans la nuit, il a été, je l'ai appris plus tard, avec sa maman, déporté. Ils sont morts à Auschwitz. Voilà, alors ça a été une époque à la fois tragique, très étrange, dans laquelle tout le monde servait de professeur à tout le monde. Certains professeurs, nous allions même les suivre jusqu'à chez eux, pour les entendre encore dans la rue.
Ah oui, c'est impensable aujourd'hui.
Pour les écouter parler encore. Je me souviens du professeur Petit, que nous suivions toute la rue de Rivoli pour que son cours se prolonge. Aujourd'hui, on n'imagine pas tellement ça. Les relations sont devenues un peu différentes. Mais nous avions, c'est vrai, le culte de la littérature et ça nous a resté un certain nombre, peut-être à tort d'ailleurs.
Pour notre plus grand plaisir. Il faudrait justement continuer. Il faudrait que les générations d'aujourd'hui puissent bénéficier de, cette,
oui, mais le savoir
de cet enseignement.
Le savoir s'est tellement multiplié. Mmh. Je veux dire, c'est vrai que le savoir était beaucoup plus restreint. Le savoir scientifique était beaucoup moins épais.
Tout était axé sur la langue.
Était beaucoup moins épais. Apprendre les langues n'apparaissait pas à l'époque comme quelque chose d'important, tandis qu'aujourd'hui, le savoir s'est multiplié dans des conditions telles que les jeunes doivent affronter une immensité de savoir.
Est-ce qu'on peut échapper à l'éducation qu'on a reçue ?
Quand on a une forte personnalité, peut-être. Moi, je n'avais pas une forte personnalité, je ne crois pas y avoir échappé. Et puis, cette éducation avait, enfin celle que j'ai reçue, me semblait avoir des avantages. Premièrement, on vous apprenait une certaine solitude. Cette solitude vous donnait quand même des forces. Vous n'étiez pas tout le temps à faire appel aux autres et à dépendre des autres. Vous appreniez que l'essentiel, vous le feriez dans votre chambre, ou en allant à l'école, ou avec vos camarades, mais vous, les parents se tenaient à distance, au point que, dans ma famille, les enfants, parfois nous déjeunions à table, mais nous ne dînions pas à table. Les enfants dînaient avant et séparément. Donc on apprenait une certaine solitude, probablement une certaine force, et puis un grand respect des autres, m'a-t-il semblé, de manière générale. Que je vois un tout petit peu s'atténuer, par exemple dans la rue, je trouve de temps en temps, je ne sais pas quelle est votre observation, que les gens se manquent un peu de respect les uns aux autres et nous apprenions un fantastique respect des autres.
Pourtant, quand on vous lit dans Trop bien élevé, on a l'impression que quand même le poids de ces bonnes manières, de cette politesse, ça a aussi pesé sur peut-être ces silences au moment de l'occupation. Moi, j'ai l'impression, parce que vous racontez juste une anecdote, le jour où justement vous décidez de vous révolter en accompagnant un camarade, enfin révolter c'est un grand mot, vous rentrez dans le lycée Charlemagne en chantant la Marseillaise à quatre pattes, ce qui était une grande audace et même dangereux à ce moment-là. Donc c'est, on a l'impression d'un poids. Même
oui, mais l'éducation était un poids, vous avez tout à fait raison. L'éducation était vécue comme un poids, il y avait ce que l'on pouvait faire, il y avait ce que l'on ne pouvait pas faire. Quand un membre de la famille venait à mourir, il fallait porter le deuil et le porter pendant, avec des habits noirs d'abord, puis des brassards noirs.
Pour raconter tout ce
pendant longtemps, l'éducation était un poids et notamment, elle éloignait du bonheur et de la joie, ça, c'est certain, mais le bonheur et la joie n'étaient pas les objectifs de
l'éducation.
Des éducateurs de l'époque.
Est-ce qu'il y a des livres sur l'enfance que vous lisiez quand vous étiez enfant ?
Non, je ne lisais pas beaucoup.
Ça ne se faisait pas à cette époque-là.
Sur l'enfance, je ne crois pas. Enfin, j'avais lu, comme tout le monde, un certain nombre de livres que l'on vous oblige à lire. J'apprenais des quantités de poèmes. J'avais toujours eu une espèce de passion secrète pour Rimbaud.
Oui.
J'apprenais par cœur des quantités de poèmes de Rimbaud, sur d'ailleurs le conseil de deux ou trois de mes professeurs, car Rimbaud n'était pas son programme à l'époque, n'est-ce pas ? Il n'était pas question.
Oui.
Non, était au programme souvent des écrivains plus, je n'oserais pas dire médiocres, parce qu'ils ont peut-être été à l'Académie, donc je suis obligé d'être prudent dans mon propos, mais des gens comme François Coppé ou comme quelques autres. Hérédia aussi, mais Hérédia, il y avait de beaux poèmes d'Hérédia que vous avez appris, que j'ai appris, etc. Mais c'est vrai qu'on allait surtout sur Baudelaire. Alors comme j'avais du côté de ma mère une famille qui pensait qu'elle avait connu Proust, qu'elle avait connu Baudelaire, qu'elle avait connu, je dis pensait, parce que je ne sais pas jamais quelle était la part d'imagination.
D'accord.
Dans les récits qui m'étaient faits, nous étions priés d'aller vers cela. Et je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer la littérature sous ses beaux aspects. Nous apprenions beaucoup moins d'Hugo qu'on en apprenait avant et après, beaucoup moins d'Hugo, quoi, quel que soit le génie d'Hugo, bien sûr. Mais nous apprenions, en revanche, je me souviens de la prose et je me souviens avoir appris des pages des Mémoires d'outre-tombe.
Mais
ce qui ne se fait plus.
Non, mais ça revient, la récitation, hein, ça revient, ça revient. Jean-Denis Bredin, merci.
Non, merci
merci d'être venu nous parler de trop bien élevé.
Excusez-moi d'avoir été trop long.
Vous êtes tout excusé et vous n'avez pas été trop long. Merci beaucoup.